L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Et ce n'est pas parce que nous sommes au mois de juillet que ça va s'arrêter comme ça. Ça s'arrêtera quoi? Au mois d'août pour quelques semaines, histoire de dire que c'est les vacances, qu'on peut réviser et tout ça, on peut... Hein?
Oui, absolument.
Bonjour Bernard Vacherot.
Salut mes chers amis, salut à vous tous.
Alors, reprenons où nous en étions.
Eh bien, nous parlions de Moïse, n'est-ce pas? Bon, et du prêtre Manéthon, etc. Nous avons parlé du livre de l'Exode, nous avons parlé de tout cela. Et je reste toujours dans l'optique de l'étude monachique. Hein. Même si il y a des moments où nous allons faire de longues digressions, mais elles ont toujours un lien avec notre point de recherche. Alors, tous les auteurs que j'ai déjà cités, mon ami et mes amis, admettent donc la complexité de la question qui se pose sur l'étalement historique scientifiquement établi, je précise, des Juifs dans l'espace méditerranéen dans les années 1250 avant Jésus-Christ. Leur exode massif, celui-là, à partir de l'échec de la bataille de Bar Kokhba, où les Romains écrasèrent la résistance juive en 135 avant Jésus-Christ, sans omettre, bien sûr, celui de Massada, qui eut lieu en 73 après Jésus-Christ, donc antérieurement, leur présence à Rome, Lyon, au sud de la Gaule, en Espagne, etc., est attestée à de multiples reprises dès le 1er siècle après Jésus-Christ et le début de la première croisade de 1096. Alors, rappelons en effet que les historiens modernes, évoquant l'évolution historique de la présence juive dans l'Occident médiéval, distinguent deux grandes périodes. L'une allant du 5e siècle à peu près jusqu'à la première croisade de 1096, l'autre allant de celle-ci à la fin du 15e siècle, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne aux alentours de 1492. Il semble qu'entre le 5e siècle après Jésus-Christ et 1096, il n'y eut pas vraiment de réelle manifestation d'un antisémitisme virulent, du moins, en Gaule et en Espagne. J'ai bien dit « il semble hein, », en gardant toute une prudence requise. Et si quelques troubles eurent lieu effectivement, car il y en a eu tout de même, faut pas le nier non plus, ce ne furent que des spasmes locaux et épisodiques. Les troubles religieux qui éclatèrent en Espagne divisèrent essentiellement les chrétiens et les musulmans, principalement, et trouvèrent leur point culminant avec la Reconquista qui commença vers le milieu du 8e siècle, aux alentours de 750, et se termina lors de la prise de Grenade en 1492. Il est à relever que la majorité des ouvrages importants traitant de cette période de l'histoire des relations judéo-musulmanes en Espagne et au sud de la Gaule ne fait pratiquement pas allusion à une opposition virulente entre juifs et musulmans, mais uniquement entre chrétiens et musulmans, et encore sur un plan plus militaire que théologique et intellectuel. Alors, je vais citer quelques références. Par exemple, de Cyril Glacé, le dictionnaire encyclopédique de l'islam, aux éditions Bordas, Paris 1991. De Dominique et Janine Sourdel, dictionnaire historique de l'islam, aux éditions PUF, c'est-à-dire Presse universitaire de France, Paris 1996, et Claude K.N., l'islam des origines au début de l'Empire ottoman, aux éditions Hachette, 1995. Citons encore le très documenté et intéressant ouvrage de Ali Mazaheri, La vie quotidienne des musulmans au Moyen-Âge, du Xe au XIIIe siècle, c'est aux éditions Librairie Hachette, 1951. D'abord, scientifiquement, historiens, ces auteurs n'ont rien voulu démontrer, mais étudier, ce qui est tout à fait différent, et ce qui atteste du sérieux de leurs travaux. C'est pourquoi j'ai utilisé ceci comme référence de base. Pourtant, il y eut, bien sûr, des oppositions intellectuelles et théologiques entre musulmans et juifs, plus fortes, plus accentuées, à partir du IXe siècle après Jésus-Christ, oppositions qui sont abordées par Dominique Urvois dans son ouvrage intitulé « Les penseurs libres dans l'islam classique » aux éditions Albin Michel, collection Bibliothèque Idée, Paris 1996. Alors, il cite un hérésiarque de l'islam, c'est-à-dire un homme qui était considéré comme hérétique par les musulmans, et s'appelait Ibn al-Riwandi, mais ne donne malheureusement aucune référence historique. Et il dit simplement de celui-ci qu'il était d'origine juive et aurait rédigé des textes, alors lesquels, malheureusement, là, l'auteur est gênant car il ne le dit pas, contre l'islam, dûment soutenu en cela par les juifs. Et c'est un peu gênant parce que là, bon, c'est intéressant comme témoignage, mais ça manque beaucoup de références. Alors, il cite surtout le célèbre Maïmonide, grand auteur juif qui a vécu entre 1135 ou 1138 jusqu'à 1204 en Espagne, s'en prenant à Elisa ben Abuya, qui serait peut-être Ibn al-Riwandi. Donc, en fait, un auteur juif de demander à la raison plus qu'elle ne peut donner. Le même auteur fait mention de Ayaway, connu entre les années 850 et 875, qui proposa 200 questions sur la Bible et la pensée juive en général, et rédigea même une version expurgée de la Bible, relue à sa manière pour les enfants, prenant soin d'éliminer tous les passages posant des problèmes. Alors, bien entendu, il se heurta aux théologiens juifs, vous pouvez l'imaginer, et Ayaway reconnaît la Bible comme le livre fondamental des trois monothéismes, judaïsme, christianisme, islam. Mais veut le montrer autrement qu'il ne l'a été, car, dit-il, jusque-là, sa présentation a été erronée. Alors, accusé de rationalisme par ses détracteurs juifs, Ayaway fut plus un sujet de discorde qu'un trait d'union. D'ailleurs, le milieu musulman andalous fut traversée par un courant de pensée désabusé entre le 5e et 11e siècle. Parmi eux, citons Ibn Hazm ou Ali ibn Ahmad, qui a vécu de 994 à 1064. Arabo-persan, natif de Cordoue en Espagne. Il est hostile aux interprétations cachées, c'est-à-dire secrètes, du Coran. Il rédige de nombreux ouvrages sur la philosophie et l'histoire des sectes religieuses et écoles de pensée. C'est un polémiste. Il sera même très polémiste. Il fut rejeté de tous, y compris de ses coreligionnaires musulmans, et se retira dans une vie solitaire, sorte d'exil spirituel intérieur, qui finit par le marginaliser parmi ses coreligionnaires.
Andy Warhol à la coupole peint les gambettes de Mistinguette. Il les dessine très longilignes, leur donne la forme du cou d'un cygne. Lewis Carroll à la coupole parle de fillettes en salopette. Il les devine vêtues de jeans pleines de paillettes sur les pommettes. Elles me fascinent, toutes ces gamines avec leur mine de Marilyn, sortant de l'école vers la coupole, elle caracole et elle racole. Quand vient le soir, j'aime aller boire un verre d'alcool à la coupole, pour faire du gringue à toutes ces dingues, à toutes ces folles bien trop frivoles. Toutes les idoles de la coupole, les midinettes, les gigolettes, les carolines en crinoline ne sont en fait que des starlettes. Lai 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 lai.
Voilà, c'était Renaud dans l'émission de Bernard Vacherot. Je vous ai interrompu avec une chanson.
Non, mais vous êtes fort sympathique, mon ami.
C'était pour vous autoriser une respiration.
Oh, que vous êtes gentil.
Alors,
parmi nos auteurs médiévaux, nous parlions de Ibn Hazm. Chez Ibn Hazm, on peut encore sentir un certain scepticisme à l'égard de la religion, qu'elle soit musulmane, juive ou chrétienne, et doute du savoir des penseurs de ces trois religions. Et Ibn Hazm déclare à ce sujet ceci. Nous interrogeons également l'authenticité de leur savoir. Et il ajoute que l'homme intelligent doit chercher le savoir. Un peu plus loin, il doit préférer l'investigation d'après les preuves à toute autre chose, comme le plaisir, l'argent ou les honneurs. Alors vous voyez que l'islam andalous eut donc de ces penseurs libres en grand nombre, et nous ne pouvons pas tous les nommer ici, car il faut reconnaître malheureusement ils furent contestés par leurs coreligionnaires plus traditionnels. Nous prenons donc conscience du fait d'un univers occidental médiéval chrétien, juif et musulman, qui, en Gaule et en Espagne, a vécu entre le 5e et le 13e siècle, une période religieuse et intellectuelle, il faut le dire, très mouvementée. Si nous n'oublions pas les autres mouvances religieuses du monde chrétien, allant des influences bogomiles à celles des cathares et des vaudois, sans oublier les sectes à tendance inspirée du gnosticisme hermétique et ésotérique, nous mesurons l'étendue de la tâche qui attendait saint Dominique, et plus tard Thomas d'Aquin, et avec eux les moines et moniales, pour répondre aux questions spirituelles, intellectuelles et théologiques de leur époque. Ah, mais la vie du savant, la vie du chercheur, n'était pas facile. Répondre aux grandes questions que nous venons d'évoquer, théologiques, philosophiques, scientifiques, posées fut le défi qui s'imposa aux théologiens. Et le problème fut d'autant plus ardu que les questions fusaient de partout et de tous, que ce soit les savants musulmans, juifs et chrétiens de toutes origines, langue, nation, culture, classe sociale. Citons par exemple saint Dominique, 1170-1220, Thomas d'Aquin, 1227-1274, qui, s'ils furent les plus connus parmi les théologiens occidentaux de cette époque, hein, bien sûr, ne furent pourtant pas les seuls à apporter leur contribution à cet édifice intellectuel et spirituel en vue de restaurer l'Église ou de la corriger. Eh oui, ne l'oublions pas, elle n'était pas parfaite, hein. Alors, par exemple, Gerbert d'Aurillac, qui est devenu pape Sylvestre II, de 999 à 1003. Eh bien, précisément, Gerbert d'Aurillac, ancien oblat à l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac, alla en Catalogne, où, sous la recherche et la gouverne de savants arabes d'Espagne, dont un savant musulman, donc, d'Espagne, il fit de brillantes études. Puis il alla à Rome poursuivre ces mêmes études, où il fut remarqué par Othon Ier, dit le Grand, premier empereur du Saint-Empire romain germanique, entre 962 et 973, et précédemment roi de Germanie, de 936 à 973. Et roi d'Italie de 951-61 à 973. Et ce grand empereur Othon Ier mit tout en œuvre pour reconstruire l'empire de Charlemagne. Alors Gerbert d'Aurillac quitte donc Rome pour se rendre à Reims en qualité d'écolâtre. Brillant étudiant, il approfondit ses recherches en philosophie, sur quoi les écrits d'Aristote, chers aux penseurs arabes d'Espagne. Rappelons qu'il avait été formé en Espagne par les grands philosophes musulmans espagnols. Et Porphyre, philosophe grec, d'origine libanaise de Tyr, né à Tyr en 234 après Jésus-Christ, est décédé à Rome en 305, élève et continuateur du fameux Plotin, qui lui-même philosophe grec d'Égypte, dont il étudia les œuvres. Alors Porphyre, puisqu'on parle de lui, polémiqua contre les chrétiens. Ben oui, les chrétiens ne faisaient pas l'unanimité, hein, bon. Étudier un auteur qui, comme Porphyre, polémiquer contre les chrétiens, intéressa et plut à Gerbert d'Aurillac, et ne l'empêcha pas d'étudier les œuvres du célèbre Hincmar de Reims, qui a vécu de 806 à 882, fut archevêque de Reims, théologien et historien, et conseiller du roi Charles le Chauve, et rédacteur d'une vie de Saint-Rémy. Il consulta encore l'œuvre d'Alcuin, savant religieux anglo-saxon, un des maîtres de l'école palatine fondée par Charlemagne. Et il s'est engagé pour la présence de la défense théologique de la présence réelle dans l'Eucharistie, en partant des écrits de Pascas Radebert, moine de Corbie dans la Somme. En un temps, Gerbert d'Aurillac s'avéra contestataire envers la papauté romaine, ce qui lui valut de n'être pas en cour du tout sous le pape Jean XV, qui a pontifié de 985 à 996. Mais, ce même Gerbert d'Aurillac a été élu pape en 999 et il le resta jusqu'en 1003. À ce grand penseur devenu pape, il faut ajouter d'autres intellectuels comme Béranger de Tours, dont nous avons d'ailleurs évoqué les œuvres ici déjà un peu plus haut. Alors, Béranger de Tours, qui décédait dans la paix de Dieu, comme on dit, s'il fut toujours dans cette paix, ne fut pas toujours dans la paix de l'Église, du fait que certaines de ses prises de position au sujet de l'Eucharistie, en laquelle il remettait en question la réalité de la présence réelle et donc de la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement de substance du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ. Plusieurs fois condamné, ce savant, dont l'Église reconnut par ailleurs les qualités spirituelles, la générosité et la vertu, ainsi que la science, mourut tout de même réconcilié avec elle en 1088.
Et oui. Si vous le voulez bien, on va commencer la prochaine émission par ce rappel.
D'accord, mon ami.
Merci,
à bientôt.
Merci, Bernard Vacheron.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacheron, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.